Bonjour Pascal Quignard.
Bonjour, très heureux de vous retrouver année après année.
Moi de même. Et donc cette année, nous nous retrouvons pour parler de votre dernier livre, « Il n'y a pas de place pour la mort », dont on voit un exemplaire ici, très beau livre d'un nouvel éditeur. Il n'y a pas de place pour la mort. Je dirais que le livre pourrait tout aussi bien s'appeler un livre sur le bonheur, plutôt que ce titre qui d'emblée dit sans dire, mais dit néanmoins qu'on va plus ou moins parler de la mort. Bon, à vrai dire, un livre sur le bonheur, le titre était déjà un peu pris par vous-même. C'est un livre, je dirais, qui, à votre habitude, entrecroise des voix. Deux narrateurs principaux, ou au moins deux types de voix, une masculine, une féminine, qui se multiplient en diverses voix féminines. Rien de, j'allais dire, de plombant, hein, d'une certaine façon. Un livre, au contraire, plutôt léger, tout en étant grave, hein, à votre habitude. Et donc, je commencerai néanmoins par parler d'un sujet grave que vous ne traitez pas de manière grave, qui est donc la mort. Hein. Le titre, en fait, est une citation, hein, comme on l'apprend à la toute fin. Hein, mais enfin, bon, c'est pas un livre à suspense, donc je pense que
on peut
en parler. Qui sont donc les derniers vers écrits par Emily Brontë. Et je redonne la totalité de la citation, parce qu'évidemment, ça a un intérêt. « Vains mots, vaines et absurdes les croyances, il n'y a point de place pour la mort. »« There is not room for death. » Que je rapprocherai éventuellement d'une des remarques du narrateur dans le livre, qui dit « Peut-être la mort, peut-être le mot de mort ne désigne-t-il rien, ce n'est qu'une image étrange que les humains se donnent de leur fin. » Donc ma question, c'est, en écrivant ce livre, est-ce que d'une certaine manière, votre projet, ou en tous les cas, ce qui est advenu, était de dédramatiser la mort, ou en tous les cas, de la débarrasser de son imaginaire, de sa morbidité, d'une certaine façon?
Ah oui, c'est une belle question, mais c'est tout à fait ça, le projet de ce livre un peu biographique. C'est d'autant plus émouvant pour moi que mes deux frères, mon petit frère et mon frère aîné, sont morts et habitaient Bordeaux. Donc ce n'est pas ici, c'est le lieu même d'en parler. C'est pour opposer quelque chose que je crois, mais même comme dans mon enfance, j'ai connu des morts très tôt, très très tôt, que j'ai jamais bien compris. Je ne comprends toujours pas. Ça reste pour moi une énigme. C'est l'immense, et là, totale, et véritablement immense souffrance de ceux qui survivent. Le deuil est quelque chose qui est tout à fait, que je crois tout à fait considérable, et tout à fait qu'on éprouve, qui est quelque chose de... qui peut même occuper la vie entière. J'ai vu des personnes totalement qui n'ont jamais fait, comme on dit, le deuil de ceux qu'ils aimaient. Mais qu'on habille la mort en faisant soit un séjour, soit un enfer, soit, des préoccupations de tombe, ou même en faire un néant, en faire quelque chose, si vous voulez, m'a toujours paru pas approprié. Et que ce soit les animaux qui vivent et qui vivent jusqu'au bout, et puis soudain ça s'interrompt, que ce soit les humains que j'ai aimés, mais les personnes les plus, et je parle là donc de personnes même très proches, la vie se poursuit, quelque chose d'extraordinairement coriace et de magnifique dans la vie, une sorte d'insistance, et qui un coup, une sorte de faille, si vous voulez, mais pas plus qu'une faille. En effet, quand vous dites, c'est très beau le mot que vous avez employé, morbidité. Je ne crois pas à la morbidité de la mort. Je crois à la souffrance du deuil, mais je ne crois pas qu'il faille faire un séjour, ou même des lieux de pensée, ou même, comme je le disais, je suis même pas sûr que ce soit un néant. C'est rien. C'est moins qu'un néant. Vous comprenez ce que j'essaie de l'exprimer. Voilà.
Alors, Il me semble que dans ce livre, justement, vous approchez la mort, ou vous la contournez, vous changez la perspective sur la mort. Et notamment, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est plutôt vers la fin, où vous parlez de la peur qu'on a du moment où on va mourir et de cette question obsédante qui est quand le temps de la mort. Et vous dites, mais on se demande jamais où on va mourir. Quel est le lieu? Qu'est-ce que ça change de déplacer le point de vue, non pas sur le temps, mais sur le lieu?
Je crois... Enfin, c'est peut-être faux ce que je vais dire. Pardonnez-moi, je suis pas un philosophe, j'ai pas des théories toutes fabriquées. Je crois qu'on vient d'un milieu, au sens spatial, je veux dire, on vient d'un bord de rivière, ou bien d'une montagne, ou bien... Je me rends compte, en vieillissant, combien le fait d'avoir vécu les 10 premières années de ma vie dans une ville totalement en ruine, qui était Le Havre, comme l'est actuellement affreusement Mariupol, ou des choses comme ça, je pense que ça compte, et que c'est quelque chose qui domine. Mais c'est plus le lieu, si vous voulez, que le temps. Et il y a, je pratique bien sûr dans mon jardin, j'aime beaucoup les animaux, qui m'ont beaucoup appris à vivre aussi, mais ils m'ont appris aussi à mourir. Et voyez-vous, par exemple, un chat, il pense, lui, uniquement au lieu où se terrer, au lieu où disparaître, plutôt qu'au temps où il le fera. Et moi, j'aimerais savoir, mais je ne sais pas si ça les a... Je les ai jamais occupés. J'aimerais savoir, plutôt que dans le port où il a été délaissé, où Virgile aurait aimé mourir. Où il y a des gens que j'aime, j'aimerais savoir où. Bien sûr, j'ai eu par exemple celle qui s'est beaucoup occupée de moi enfant. Ma grand-mère, mais bien sûr qui est morte dans le corridor de sa maison, mais où aurait-elle aimé mourir? Non, c'est quelque chose qui m'a travaillé l'esprit. Oui. Ça ne vous a jamais, soucié de cette question?
Ou... Non, c'est pour ça que ça.
Ah, pour ça que vous la posez.
C'est d'une belle question.
Oui. Ou c'est aussi peut-être pour offrir un peu de bonheur à ceux qui ne sont plus là. Où ils auraient aimé mourir? Bon, mais bon.
Alors, il y a aussi, comme dans beaucoup de vos livres, on brode un peu autour de la mort, hein, on va la quitter ensuite parce que c'est sans doute pas le sujet si central que ça du livre. Vous avez une sorte de fascination pour les derniers instants, les personnages qui meurent. On a plein, hein, de personnages illustres ou non qui meurent dans l'ouvrage, les suicides, beaucoup d'annonces de suicides, Rothko, Celan, Chopin. On a beaucoup Chopin dans ce livre qui change un peu de votre ambiance musicale plus habituelle. Pourquoi cette fascination pour ces derniers instants ou pour
Vous voyez, le fond du livre, si vous voulez... où il n'est en effet pas question de la mort, il est question en fait de sortir. On sort bien sûr du ventre de sa mère, on sort de son enfance, de son milieu, on se marie, on divorce, on sort, on change de métier. Ma vie a été... Et la mort n'est qu'à sortir comme un autre. On sort encore, on sort. Et là, par exemple, sur le milieu Chopin, c'est très curieux et c'est très beau. Si vous allez à Valdemossa, où il a écrit ses préludes, j'aime beaucoup les chartreuses, j'y vais souvent faire des retraites. Cette chartreuse, j'aime beaucoup l'idée de Saint Bruno qui a inventé les chartreuses, à savoir on piétine la mitre et la crosse de l'évêque. Et il n'y a pas de hiérarchie. On se donne uniquement une verticalité, une sorte d'extase. Et Chopin, si vous prenez, comment dire, il n'a plus écrire finalement sa musique dans le souvenir de sa sœur, Émilie, que dans des jardins, à Valdemossa, à Nohant, où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup écrit, Et puis, dès qu'il se retrouvait en ville ou ailleurs, il n'écrivait pas grand-chose. Vous voyez, le lieu où l'on est, le lieu de son enfance. On écrit toujours un peu dans son enfance.
Et c'est...
Et puis, il y a ce thème aussi, comment dire, qu'il faut que je ne peux pas cacher, c'est que Chopin a inventé, comment dire, inventé. Il y a une scène que je rapporte d'une princesse polonaise qui s'effondre à un de ses concerts avec toutes ces robes que l'on pouvait avoir à l'époque, magnifiques, mais pleines de cerceaux et de très bruyamment, et qui... Chopin s'arrête de jouer, et alors il va voir ce qui se passe, et elle lui dit « Oh pardon, monsieur, je n'avais pas pensé qu'il puisse exister un pareil chagrin. » Et ça, c'est quand même, c'est le romantisme dans ce que ça a de plus beau. Et c'est pas triste qu'on ait eu un musicien comme Chopin qui ait inventé le chagrin. Ça n'est pas triste parce qu'il en a fait quelque chose qui nous bouleverse encore.
Alors on va quitter un peu la mort, mais...
Quitter la mort. Moi aussi, j'y tiens beaucoup.
Mais progressivement. Et effectivement, vous avez parlé des départs, là, il y a beaucoup de départs. Et vous dites à plusieurs reprises que la mort, c'est aussi un commencement, non pas du tout dans une perspective chrétienne ou... vous dites même la mort est une entrée dans le monde, et en fait, on pourrait dire que ce livre est plutôt un livre des commencements, de belles choses aussi. Le crépuscule et l'aube de la nuit, par exemple, tout chemin mène à l'origine, etc. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'origine?
Elles sont magnifiques, vos questions, mais elles sont très difficiles quand même. Hein, pardonnez-moi, mais elles sont très belles, mais difficiles. Oh, très franchement, je crois que nous sommes tous des fruits de l'origine. Je crois que l'origine ne cesse pas en nous. Je crois que ce qu'on appelle, bon, les physiciens, c'est un mythe qu'ils ont inventé. Ils appellent ça le Big Bang, une sorte d'explosion comme ça, qui aurait été sonore, donc musicale, bien avant que l'espace soit là. Il y a eu un son, puisqu'on peut encore, comment dire, le déchiffrer et le retenir et le retrouver. Et bon, il y a dans cette explosivité qui ensuite s'est transformée, bien sûr, je vais vous raconter l'histoire de l'univers pendant qu'on y est. On n'est pas dans les volcans ou dans les, puis ensuite dans la vie, avec cette façon de surgir et de se nourrir du soleil, de s'élever, les plantes, puis après la sexualité des plantes, puis après la sexualité des animaux qui mangent ces plantes. Et on est des fruits de l'origine. Et moi, ma façon de vivre, c'est de vivre tout à l'état d'origine, si je pouvais. Oui, c'est une façon de... C'est pas invraisemblable. C'est bien mieux, en tout cas. Vous comprenez mieux l'idée de ce livre dans ce cas, qui n'est pas un livre de philosophie, qui sont que des petites histoires, mais qui sont, comment dire, nous naissons. C'est tout. Il nous arrive rien de toute notre vie, même au dernier moment, nous naissons.
Alors, il y a un thème qui traverse aussi le livre, qui rejoint un peu cette idée de départ. C'est le thème de la fuite. Et alors, c'est intéressant parce que vous tournez autour du terme. Vous dites fuite, vous dites ça convient pas, vous dites fugue, ça ne convient pas non plus. Et puis, j'ai repéré au fil des lectures comme ça tout ce narrateur ou ces personnages. Et il y a des termes comme filer, décamper, détaler. Qu'est-ce que vous essayez de cerner? Qu'est-ce qui n'est pas, qui est une fuite sans être une fuite? C'est quoi ce...
Ah non, c'est un...
Est-ce qu'il faut fuir la mort?
Oui, mais je comprends mon hésitation, je comprends votre hésitation. C'est un trouble que... Vous savez, j'aime beaucoup le monde romain, qui est un monde, comment dire, qui est à la source de notre langue aussi, la source de notre langue et de notre civilisation en grande partie. Et le monde romain avait, comment dire, une valeur qu'il appelait Virtus, qui est un vertu, qui fait le mot vertu, Virtus, et qui le prenait comme exemple de cette... je ne quitte pas votre question, n'ayez pas peur, j'ai l'air tout de suite de m'emballer. Non.
Vous êtes libre.
Oui, je suis libre, mais je m'emballe. Je vais revenir à la question. Et leur, donc, l'animal qui pour eux était le plus romain, c'était le sanglier. Le sanglier passait pour les Romains comme le seul animal qui ne se retourne jamais, qui affronte toujours, toujours. C'était donc la vertu, la virtus, la vigueur faite animal. C'est cela que devait être, comment dire, le... Et puis, vous avez, comment dire, au cours du temps, je ne saurais pas vous en faire le détail, parce que vous êtes plus historienne que moi, vous pourriez peut-être plus me... Au cours du Moyen-Âge, je ne sais pas à quel moment, sont arrivés les mythes chrétiens de Saint-Hubert et d'autres, etc. Et finalement, le roi de France et même l'Église de France s'est prise comme animal pour marquer sa grandeur et sa beauté, et aussi dans son bois, le cerf, je veux dire, donc le cerf, dans son bois pour pouvoir inscrire la croix de Jésus-Christ qui s'inscrivait là. Et l'animal, c'était à Rome l'animal le plus méprisé parce que c'était la bête qui s'enfuit. Le cerf était l'animal le plus méprisé et le sanglier donc l'animal vertueux. Je vous avoue, j'aime tous les animaux, donc on ne me fera pas choisir entre un cerf et un sanglier. Mais je trouve, dans ma vie aussi, et c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre très, très clairement, mais qu'il y a bien des situations où je conseillerais de fuir à toute allure, et qu'il y aurait plus de vertu à fuir qu'à affronter, qu'à croire qu'on peut affronter. Et il y a bien des situations, mais ça, je ne m'en mêlerai pas, ni ce soir, ni jamais, même politique, où on ne sait pas s'il ne faut pas parfois fuir le pays ou bien affronter ce qui s'y passe. Donc, je ne vous apporte pas de solution, mais vous avez touché quelque chose de vrai. J'ai été enfant, et je le suis toujours, troublé de vivre dans un territoire où, à un moment, le sanglier a été le maître, et à un moment où le cerf a été le maître. Vous comprenez comment c'est ?
Oui, oui. Oui, d'où le... Parce qu'il y a... Il y a à plusieurs moments, hein, dans le livre, notamment au début, je reviendrai peut-être... très belle scène inaugurale, très énigmatique. Je reviendrai tout à l'heure sur... Je vous interrogerai un peu sur l'étrangeté de certains passages, de certaines histoires. Il y a donc ce jeune homme, 42 ans, hein, on le sait dans le texte, qui donc devient l'amant d'une vieille dame. Et au bout de 3 ans, elle lui dit « Il est temps de filer, maintenant je vais mourir. » Donc il y a quand même bien un lien entre la fuite, la mort.
Oui, là, c'est plutôt une grande délicatesse. Une grande délicatesse. Mais je ne crois pas qu'il s'en va parce qu'on lui ordonne de partir. Je ne pense pas du tout qu'il n'ait pas eu le courage d'assumer la mort de celle qu'il aimait. Non, je ne crois pas. Il y a des pudeurs soudaines comme ça. C'est comme si... Ouais, c'est un mouvement qui est non, je veux t'épargner à tout prix, comment dire, ces instants-là, va-t'en. C'est ouais. Et c'est pas toujours vrai non plus. Là, je pense, j'ai cette image en tête, c'est pas toujours vrai non plus, comment dire, que les animaux se cachent pour mourir. Parce que je me souviens d'un ami, Valerio Adami, qui me racontait, comment dire, sur le lac majeur, magnifique maison. M'y avait conduit pour me montrer l'endroit. Son chat était venu le chercher à l'atelier, puis il l'avait conduit, comment dire, à un endroit qu'il aimait pour lui montrer l'endroit où il allait mourir. Donc, tout ça, je ne sais pas comment, mais ouais. Je trouve assez beau cette façon de dire non, maintenant c'est fini, allez.
Donc, c'est.
C'est vous qui êtes revenu sur la mort parce qu'on avait dit qu'on la quittait.
Ça y est.
Reconnaissez que c'était. Ouais.
Donc, c'est un livre de souvenirs aussi. Les souvenirs ne sont pas la mort. C'est pas tellement pour parler des souvenirs, il y aurait quelque chose d'un peu C'est un livre de souvenirs, mais je dirais ce qui m'a beaucoup frappé, et ce qui n'est pas inhabituel chez vous, c'est que c'est pas un livre qui raconte des souvenirs. C'est un livre qui, semble-t-il, essaye de transmettre des sensations de souvenirs. Et ce qu'on vous dit, hein, je me souviens, pour l'arrière-grand-mère, du petit miroir en or rose du poudrier de mon arrière-grand-mère. Et puis on a une scène tout à fait intéressante qui suit. Donc, est-ce que la mise en scène, est-ce que pour vous, l'intérêt du travail peut-être d'écrivain aussi, c'est justement de faire passer ces sensations plutôt que des récits de souvenirs? Et moi, ça me paraît quand même très paradoxal. C'est-à-dire que la sensation, théoriquement, c'est ce qu'il y a de plus éphémère, ce qui échappe le plus. Or, le souvenir réside dans la sensation. Est-ce qu'on a des sensations de souvenirs? Pardon, des souvenirs de sensations?
Vous êtes très rationnel. Et je vous admire pour ça. Je le suis moins que vous. Mais vous touchez exactement au cœur de ce qui m'a fait écrire ce livre, qui est une sorte de roman. Parce que c'est faux. En fait, si vous voulez, je ne crois pas aux souvenirs. Je ne crois pas non plus tellement aux rêves, du moins aux récits qui nous fait rapporter le rêve. Je crois au rêve, mais pas au récit qui fait rapporter le rêve. Je ne crois pas quand les gens me racontent leur vie, même le récit de leur vie. J'ai des doutes souvent sur le récit qu'ils me racontent. Quand on me raconte un souvenir, je n'y crois pas non plus beaucoup. Je crois vraiment que la mémoire est très fabulatrice. En revanche, je crois à quelque chose qu'on appelle le fantasme, et qui est défini comme, comment dire, un faux souvenir. Et Freud ajoute qu'il brille trop pour être vrai, mais qui est plus beau qu'un souvenir. Moi, je ne cherche pas ce qu'il y a derrière. Donc, il cache, selon Freud, ça cache un secret. Moi, je ne me mêlerai pas de ce qui m'intéresse dans le fantasme, et je les note. Pour ce qui me concerne, c'est des souvenirs, en effet, qui sont faux. Je sais que c'est faux, mais ils sont très présents. Il y a un âge, si vous voulez, où le sommeil vous quitte un peu. Peut-être pour fuir, en effet, un plus grand sommeil qui vient. Le sommeil vous quitte un peu. Et des choses très filandreuses, qui ne sont donc pas des souvenirs, qui ne sont pas des rêves, sont des restes de rêves, des lambeaux de rêves. Et puis des images soudaines, qui sont aussi belles que des carapaces de scarabées, qui brillent plus qu'une autre. Et je les note. Et là, vous avez, comment dire, je ne crois pas aux biographies, aux gens qui prétendent avoir eu un seul destin dans leur vie. J'ai trop quitté de choses, j'ai trop démissionné, trop divorcé pour pouvoir me dire j'ai eu un destin. Non, je n'ai pas eu un destin, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu quelques-uns que j'ai ratés, j'en ai eu quelques-uns que j'ai abandonnés, auxquels j'ai renoncé. On est plus riche que ça, on est comme les plantes, comme les fleurs. On a le droit à plusieurs fleurs dans sa vie, on a le droit à plusieurs... Et voilà le fond, je donne... Ça me paraît plus vrai qu'une biographie, le bouquet de ces scènes qui sont ni vraies ni fausses, mais qui en disent plus finalement, qui sont plus sincères. Vous voyez, elles sont fausses, je les sais fausses, mais elles sont plus sincères. Vous avez touché là quelque chose qui fait le fond de ce livre.
C'est ce qui est en quatrième de couverture, hein, parce que ça rejoint exactement ce que vous dites, une phrase qui est dans le livre, qui est quand même un peu un projet autobiographique complexe, on va dire. Écris ce livre en sorte que ta vie pénètre en lui sans qu'elle mente. C'est exactement ce que vous venez de dire, mais comment écrire, parce qu'on a un changement de point de vue. Il ne s'agit plus d'un auteur qui écrit, mais bien d'une vie qui entre dans un livre. Et il me semble que vous essayez à plusieurs reprises justement de quitter la posture auctoriale pour vous mettre d'une certaine façon soit dans une authenticité de bribes de vie, je ne sais pas, soit dans une position de lecteur.
Ah.
J'ai, Il y a un moment, je ne sais plus exactement où, quelqu'un vous a mis un petit panneau une invitation sur une invitation. Il y a une scène comme ça où il y a une invitation où c'est écrit écrivain et où vous dites non, je ne suis pas écrivain, je suis lecteur. Est-ce que ce livre serait un livre écrit par un lecteur avant d'être un livre écrit par un écrivain?
Je ne me suis jamais senti vraiment écrivain et je me suis toujours senti lecteur. Oui. Je suis un lecteur de livres. J'ai besoin de cette vie à côté qu'est la lecture. J'ai toujours eu besoin de cette métamorphose-là pour pouvoir aborder ce que j'éprouvais. C'est comme si j'étais, comment dire, c'est l'esprit d'escalier. Il me fallait toujours un livre pour atteindre ce que je suis. Mais là, dans le cas précis, dans cette phrase qui fait, il faut remercier, comment dire, ma nouvelle éditrice, Sophie Nolot, parce que vous voyez sur le livre, il y a, je sais que beaucoup d'écrivaines, par exemple, mettent des photos d'elles quand elles sont plus jeunes. Là, j'y suis allé assez radicalement, et c'est pour me flatter un peu. Mais en fait, ça répond à la question du début. C'est à celle qui ne m'a pas aimé, ma mère, qui est partie il y a très très longtemps. Je m'adresse à toi pour te dire, en effet, ce que j'aurais aimé que tu aimes en moi. Donc c'est une relecture de ma vie dédiée dans ce regard un peu perplexe d'un enfant qui se dit, bon... Comme souvent, par exemple, les admirables regards des enfants autistes, par exemple. Pourquoi ne m'as-tu pas aimé? Vous voyez là, ce genre de questions comme ça. Et on peut en faire un livre de souvenirs de bonheur, même s'ils sont un peu faux, même si c'est un roman. Voilà, là, vous avez complètement la réponse.
Puisque vous êtes arrêté sur le bandeau, effectivement, où il y a une photographie... Donc vous venez de dire et que j'ai lu effectivement qu'il y a une photographie de vous enfant. C'est si j'ai bien vu une photographie qui avait été prise lors de votre enfance au Havre. Et effectivement, le Havre apparaît dans le livre. Enfin, voilà. Et il y a des lieux comme ça qui sont des lieux de désastres, des lieux en tous les cas qui ont été complètement rasés, etc. Il y a Nagasaki qui apparaît aussi. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi ces lieux vous obsèdent? Ou qu'est-ce que
vous voyez? Vous dites des lieux de désastre. Vous avez historiquement raison. Bien sûr, ça a été une. Le Havre a été intégralement rasé par l'invasion américaine. Très curieusement, ça n'a pas été reconstruit pendant 7 ans, donc ça fait une très très longue lente reconstruction, si bien qu'en effet, dans cette époque-là, on vivait dans les ruines, on ne vivait pas dans autre chose. Ils hésitaient. Saint-Malo, par exemple, qui avait été rasé, ils ont décidé de reconstruire tout. C'est complètement faux, mais Saint-Malo est reconstruit à l'ancienne. Donc on n'a pas l'impression qu'on pouvait avoir... Ce sont des villes de désastres objectifs. Bon, ça, c'est la vérité historique. Vous naissez dedans, ou vous arrivez quand et vous faites vos études primaires dans une ville. Vous vivez 10 ans dans une ruine. Vous n'arrivez pas dans un désastre, vous ne connaissez que ça. Et c'est quoi? C'est le moment de l'enfance, c'est le moment... Enfin, du bonheur relatif, du moins, de l'enfance et des jeux de l'enfance, même si c'est des jeux un petit peu avec des pierres décellées, des rats qui fusent et le silence admirable des villes en ruine, parce que malheureusement, il n'y a pas de voiture pour pouvoir y pénétrer. Donc, c'est très, je vous jure, c'est très, très étonnant de pouvoir dire désastre pour la ville où on a passé son enfance. Quand j'y suis arrivé, quand j'y suis retourné, quand, comment dire, là de nouveau j'y vais, comment dire, dimanche, quand Édouard Philippe m'invite, comment dire, pour pouvoir faire des lectures là-bas ou déjeuner avec lui, là, c'est le maire d'une grande ville. Mais moi, c'était, ça n'est absolument pas ça. Lorsque je vois la ville du Havre, je ne peux pas dire, je ne vous dirai pas que je l'aime, parce que je ne l'aime pas, parce qu'elle me paraît fausse. Moi, le souvenir du Havre que j'ai, ce sont des pierres démantelées, c'est d'aller dans prendre mes leçons de violon, de piano, comme ça, dans des ruelles complètement. Les fenêtres étaient ouvertes, tout était ouvert sur la mer. Il n'y avait que la mer, dans le fond, il n'y avait que la mer. Voilà, donc. J'ai refait un vieux rituel au Havre. Un vieux rituel qui n'avait pas été fait depuis la création de la ville par François Ier. François Ier avait décidé de faire un arsenal de guerre pour lutter contre l'Angleterre. Il a choisi le Havre. Il a fait comme un petit village qui s'appelait Grasse. Il a appelé ça le Havre de Grasse. Havre au sens de Haber, de port du Havre. 5 ans ou 6 ans, ce n'était pas déroulé qu'une grande vague, un tsunami, à vrai dire, a dévasté complètement toute la ville, allant jusqu'à la colline de Gravelines. Et ça s'est appelé, comment dire, la mal-marée, mal-marée au sens de malheur, la vague malheureuse, si vous voulez. Je crois d'ailleurs qu'en japonais, tsunami a un peu ce sens de vague malheureuse, de quelque chose qui... Et j'avais fait venir des amis japonais, c'est au Japon il y a d'autres pays, mais où je suis plus aimé qu'en France aussi. Tout est paru là-bas. J'ai même, si vous voulez, des livres, si ça vous amuse, je ne pourrais pas dire ça à Denis Mola, mais directement en japonais. J'en ai fait un, d'ailleurs, le Havre Nagasaki, qui est paru il y a 2 ans, qui ne paraissent pas en France. Comme je publie beaucoup, j'en glisse quelques-uns dans les nous avons fait, dans la cathédrale du Havre, j'ai demandé de faire la performance, en performance, ce souvenir de la mal-marée, de la vague malheureuse. Et à ma grande surprise, alors je vous dis, le rite, c'est très simple. Comment dire, tous les ans, ce jour-là, les Havrais devaient monter, comment dire, sur leur banc pour laisser passer la marée et les morts. C'était tout simple. Et j'ai demandé à tout le monde, et le prêtre était là aussi, de monter sur leur banc, sur leur chaise. Ils l'ont tous fait. C'est assez... Bien sûr, il n'y a pas eu d'eau, ni rien. Ils l'ont tous fait, on a fait. Alors après, on avait 2 pianos là. J'étais avec madame, une grande pianiste, madame Garou Akata, et moi. Et je lui ai dit, on va faire l'an prochain, et on va fêter, comment dire, je me suis dit, bon. Et alors je me dis, quelle ville puis-je prendre, comment dire, au Japon pour pouvoir correspondre au Havre, comme ça? Bien, Nagasaki. Et on a fait la même chose à Nagasaki. C'était très émouvant. C'est encore plus émouvant à Nagasaki, parce qu'à Nagasaki, il y avait les descendants de ceux qui avaient été brûlés et qui étaient là. Et j'ai joué sur un berceau magnifique, mais surtout qui n'avait, comment dire, la ville, les habitants ont été terrassés, bien sûr, par la bombe atomique, mais l'instrument de musique, celui-là, a été impeccable. Il datait d'avant la bombe atomique. C'est très émouvant. Pour moi, ça m'émeut, ces choses.
On va rester au Japon. Il y a un écrivain qui est de loin le plus cité dans cet ouvrage, qui est Basho.
Oui.
Et beaucoup d'éléments de Basho, non seulement évidemment sa poésie, mais aussi sa vie, le voyage à la fin de sa vie. Écrivez avec sa mule, vous dites le bonheur de l'adieu, marchant dans la nature, longeant la si faible faille, entrant dans l'origine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans Basho?
Ah, ça serait merveilleux. Ce que vous dites, ça serait merveilleux que je puisse m'y reconnaître, bien sûr. Mais je m'y reconnais sur un point que je ne m'explique pas de moi du tout, mais que je ne m'explique pas non plus, à vrai dire, de lui. C'est comment dire, lorsqu'il a fondé son ermitage, il a tout quitté, son ermitage devant un bananier dont il a pris le nom, Basho, etc. il est devenu, et a commencé à faire ses poèmes et a inventé un genre littéraire qu'il a inventé au Japon, qui est un mixte de poèmes et de récits de voyage. Et puis il a eu besoin, plus il vieillissait, de partir. Là encore, on reste sur le thème de ce livre, de sortir, de partir. Et il m'est arrivé il y a une dizaine d'années, je continue de faire des tournées comme cela, soit avec des danseuses buto. Je compte d'ailleurs peut-être refaire quelque chose à partir de Bordeaux, d'ailleurs, si possible, avec Yumi Fujitani, une danseuse de buto. J'avais créé, je sais pas si pour ceux qui ici s'en souviennent, avec Carlotta Ikeda, une magnifique tournée où on était allé beaucoup aussi. Le Japon reste aussi, en effet, dans mes tournées. Bon, bref, un désir que j'ai eu de quitter la sédentarité extrême de l'écrivain dans son ermitage entouré de bambous, parce que à Sens aussi, il y a des bambous qui entourent ma petite maison au bord de Lyon. Mais c'est pour ça que je l'ai choisi. Quand je suis tombé sur une maison sur le bord d'une rivière entourée de bambous, je me suis dit, bon, c'est le destin. Malgré quand même l'ennui, comment dire, la vitalité excessive des bambous qui rend, bon, c'est une population qui aime beaucoup trop, comment dire, pulluler. Bon. Et voilà. Et je ne m'explique pas, mais lui, non plus, lui, il part et il s'en va. Il ne peut pas rester non plus dans son ermitage. Il s'en va. Et il va en effet mourir, comme vous le dites, dans l'origine ou dans la nature. Il veut à tout prix rejoindre. Mais il y a une petite anecdote que je veux dire, tellement elle m'a impressionné. C'est tous les Japonais. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce beau roman de Tanizaki, La Confession impudique. Une belle chose. Eh bien, vous voyez là où il cache ce journal intime. Il le met dans une cache où il y a les tubes ombilicaux des enfants. C'est là où le trésor pour un Japonais. Et donc, Basho, comment dire, soudain, après la mort de sa mère, pas du tout l'année de la mort de sa mère, 2-3 ans après, se dit, il faut que je retourne au village, il faut que j'aille, rejoindre, il faut que j'aille saluer ma mère. Il retourne dans son petit hameau, et il rencontre son frère, et ils vont à la maison et il demande où est son petit tube, son petit ombilic, son petit conservé dans une enveloppe comme font les Japonais. Et puis il s'adresse à lui en lui disant, voilà, toi qui me permettais de parler à maman. C'est une très belle, c'est du Basho. Je trouve ça très très beau. Voilà, oui, j'aimerais beaucoup être Basho.
Et dans ce livre, justement, il y a une manière. On a beaucoup de passages de poèmes qui sont joints. On a une sorte de, à la fois de roman, mais de prose mêlée de poésie et qui s'accentue plus on avance dans le livre, avec même presque des haïkus. Issa, les fleurs se dressent sur le toit de l'enfer. On a de très très beaux. Peut-être vous pourrez nous en lire à la fin. Enfin, on verra.
C'est vous qui décidez. Moi, je dis.
Si c'est moi qui décide, alors oui. Comment s'entrelace, comment c'est venu cette envie ou c'est pas totalement exceptionnel chez vous, mais pourquoi là cet épanchement final plus vers la poésie, comment le livre est devenu poème d'une certaine façon
Ça, je peux pas répondre, je sais pas. Vous avez raison, c'est vrai que, mais vous savez, chaque œuvre, c'est comme pour la musique, à sa tonalité, à son accent, et elle entraîne vers elle-même. Je dis pas que je suis inspiré par une muse du tout, mais c'est le livre lui-même qui guide un peu où il veut aller. Et en effet, alors que vous, si vous voulez, vous avez touché en commençant la vérité qui était quelque chose pour faire de la mort quelque chose de très réduit, c'était motif, mais J'allais pas m'attarder là-dessus. Je suis plutôt attardé vers quelque chose, en effet, de plus, je ne veux pas dire extasié, mais du plus proche de Bachot, en effet, où on donne, comment dire, vous savez, il y a des inconvénients à vieillir, et des fatigues, et aussi des parfois un petit peu d'arthrose quand on fait de la musique, et des quelques inconvénients. On va pas les... Mais il y a d'énormes avantages, qui est que la beauté de ce qui a été vécu dans les saisons, dans les jardins, dans la vie même, s'éloignant, elle se multiplie. Elle se multiplie à force que les années reviennent. Moi, c'est une bénédiction, par exemple, d'être là. J'aurais jamais pensé, comment dire, que je passerais 25 ans dans le 21e siècle. Ça. C'est une bénédiction. Quand j'imagine avec les hémorragies que j'avais à la fin du siècle dernier, je ne pouvais pas du tout imaginer que je serais là.
Et vous dites que c'est très beau de mourir d'une hémorragie, hein, quand même, dans le livre.
Hein. C'est très doux. Oui, mais oui, vous videz de votre sang. Et sans doute, une sorte de faiblesse qui vous prend. Et c'est pas du tout douloureux. Mais j'ai survécu. Mais sans ça, je veux dire, c'est pas du tout. C'est une mort, si j'ose dire, que je recommande. Bon, mais. Et c'est une chose qui me fait plaisir, si vous voulez, par rapport à tous les écrivains et les musiciens qui sont morts de la tuberculose, parce que ça n'est pas aussi douloureux quand on y est passé qu'on peut le craindre. Non, c'est quelque chose qui la vie s'en va avec le sang. Oh, ben là, on est reparti encore.
Non,
c'est pas du tout. Et vous nous demandez par vous.
Mais à coup de passe, j'ai saisi l'hémorragie, mais non. Vous étiez plutôt dans la beauté et dans le.
Oui, dans la comparaison, dans la comparution comme cela. Et c'est vrai que à force d'en avoir l'expérience, à force d'en connaître les noms, à force de là, le printemps va revenir. Ça commence déjà, les premiers bourgeons. On connaît quel arbre en premier, on connaît à quel moment apparaissent les fleurs, et tout devient une surprise, comment dire, plus miraculeuse parce que plus comparée à elle-même. C'est très beau de pouvoir comparer sans cesse à elle-même. Il y avait des émissions, je sais pas si ça existe encore, sur France Musique, il y avait des émissions où on pouvait comparer, comment dire, des jeux d'interprètes sur des. Alors quand on tombait sur une pièce, reparlons de Chopin, sur un nocturne de Chopin, et quand on en avait une dizaine de versions, et bien lorsqu'on vieillit, on a une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de versions, et c'est de plus en plus beau, et de plus en plus beau.
Alors, il y a un aspect de ce livre dont je vous parlais un peu tout à l'heure qui m'a intrigué, plu aussi, qui est l'aspect un peu énigmatique qu'a ce livre par rapport à d'autres. Bon, ça commence par ce récit quand même assez étonnant, hein, On a des aspects du livre qui sont entre énigmes, contes. Vous avez pas mal de références aux contes, de clins d'œil, de ci, de là, un coup de barbe bleue, une écriture aussi un peu. Alors, j'avais relevé barbe bleue, tu rien venir, tu ne vois vraiment rien qui poudroie sur le chemin. Bon, il y a une fée qui intervient aussi à un moment. Et il y a une écriture un peu énigmatique. C'est-à-dire les histoires, on a souvent pas beaucoup d'indications, de noms. Alors, il y a plein de personnages connus, mais on a beaucoup de rencontres d'inconnus, non nommés, etc. Je ne sais pas comment ça vous est venu. Est-ce que vous diriez que c'est un peu une spécificité de ce livre-là par rapport aux autres ?
Oui, vraiment. Et j'aime beaucoup le mot que vous avez employé d'énigme. Et j'ai beaucoup lu. Et en tout cas, la tradition philosophique m'a beaucoup intéressé. Je la connais bien. La tradition psychanalytique m'a beaucoup intéressé. Elle est plus récente, mais elle m'a beaucoup. La tradition chrétienne est aussi quelque chose que j'ai beaucoup, beaucoup puisé, comme la peinture occidentale, dans ces livres merveilleux que sont dans ces récits merveilleux que sont les évangiles et que sont, comment dire, la légende dorée de Jacques de Voragine. C'est des choses merveilleuses. Mais, si vous voulez, je m'éloigne complètement de toute théorie et tout devient, mais c'est pas une tristesse, tout devient énigmatique. Tout me paraît plus originaire et plus énigmatique qu'on croit. Et laisser les choses un peu à l'état de surtout ne plus être affirmatif, ne plus dire ceci est vrai, ceci est faux, ceci est... Non, j'aime bien laisser ça à l'état. Ça me paraît plus juste par rapport au vivant. Ça me paraît plus juste par rapport à la vie. Donc, ce livre, je ne le ferai pas pour un autre livre. J'aimerais sans doute pour un autre livre reprendre... Mais c'est vrai, vous savez, mais même, comment dire, mes premiers livres, il y a toujours eu du conte. Dans tous les matins du monde, il y a du conte. Dans tous les, j'aime bien les histoires un peu qui sont de cet ordre-là. Il y a un grand spécialiste de ça, je ne rivalise certainement pas avec lui, mais Stendhal, tous ses romans sont faits à partir de contes qu'il avoue dedans. C'est assez merveilleux.
Ça crée des... C'est vrai qu'il y a des moments, le conte ou le mythe surgit, mais il y a effectivement toutes ces... Cette écriture où, du coup, on a une perspective changée et qui donne de la surprise avec... je pense à... Alors je vais pas retrouver, évidemment. Il y a des juxtapositions. C'est une manière d'écrire, donc, qui, effectivement, a... Est-ce que ça a à voir, justement, avec aussi le surgissement de la sensation Est-ce que c'est des moments, des instants que vous arrivez à...
C'est possible. Non, je vois ce que vous cherchez. Ouais. Non, je ne vois pas la page que vous cherchez, mais je vois ce que vous cherchez dans votre tête.
Qui est assez drôle.
Mais...
Ah, c'est ça. Ces chapitres, on dit que les pucerons arrivèrent en Europe en 1810. Frédéric Chopin est né en 1810. C'est un début, quand même. Après, on comprend, mais...
On comprend que c'est le moment où les capucines se sont révélées comme mangeuses de moucherons. C'est quand même une des rares choses importantes que j'ai écrites concernant ce livre.
Mais effectivement.
Mais je comprends. Oui, c'est vrai que ce moment-là est plus. Mais pour répondre au fond de la question que vous posiez sur la sensation et sur les. C'est vrai que. Vous savez, il y a des gens qui se croient eux-mêmes, il y a des gens qui se croient avoir une identité, qui croient même avoir une profession, qui ont même que des cartes de visite, qui ont des en vieillissant, non, je crois qu'on a un corps et des sensations, qu'on les met côte à côte, et que c'est l'essentiel de ce qu'on vit. Si on vit intensément les sensations et les... On n'a plus que cinq sens, C'est la tradition qui dit qu'on n'en a que cinq. Mais c'est ça l'essentiel. Et autant, dans ce livre, le composer de ces trésors-là. Vous voyez ce que je cherchais à faire. En effet, j'ai mes côte à côte comme ça.
Les passages, justement, poétiques dont je parlais tout à l'heure, sont des... Je pense que vous parlez de nuées, un moment de sensation... sont comme ça des moments où, effectivement, on a des évocations, comme vous faites toujours, de plantes, de fleurs, oui. D'objets. En parlant des objets, puisque avant de vous donner un passage à lire ou de vous faire choisir un passage à lire...
Ah non, je ne sais pas. Oui, bon.
Y a toujours cette importance de l'objet quotidien, de l'objet simple, ça commence quand même dans une coutellerie, on a beaucoup de... Là aussi, pourquoi vous portez une telle attention aux objets du quotidien, hein, plutôt
Un des plus beaux moments. Non, peut-être qu'ils sont tous très beaux. J'allais dire une sottise, parce que le Titien, il y a des peintres absolument merveilleux qui ne se passionnent pas pour ça. Mais une des choses les plus belles que je trouve, c'est les natures mortes, les vanités. Et rien n'est plus beau que de voir une pelure de citron. Que de voir, comment dire, un couteau posé auprès d'une galette ou d'une une fiasque de vin, c'est tout. Les natures mortes ne disent qu'une seule chose, c'est tout ce que vous avez aimé et qui est si beau, dites-leur adieu. Et ces objets-là, en effet, plus ils sont humbles, plus ils sont. Vous savez, le petit chaperon rouge, c'est un petit chaperon. Il suffit d'un seul détail comme ça. Il faut pas des choses trop. Il y a une technique que je n'ai jamais comprise, que par exemple Balzac emploie sans arrêt, qui est de définir un personnage bien avec. Bon, il commence par les chaussures, puis après on a les lacets, après on a le pantalon. Après, ça, c'est interminable, et on se dit, mais on l'a déjà perdu de vue, le personnage. Et il vaut mieux avoir quelque chose, des petites choses très simples. Et là, rien n'est plus beau que, comment dire, une peinture de Beaujain, une peinture de Cotan, par exemple. Vous avez un navet posé auprès. C'est les prédelles qu'on mettait, comment dire, sur les autels des églises. Moi, je trouve ça très beau.
Vous savez que vous savez sûrement les Hollandais, la traduction, c'est pas nature morte, c'est vie immobile, en fait, et ce qui effectivement serait.
Mais la vieille expression française, c'est vie quiete, c'est-à-dire silencieuse. Ça c'était. Nature morte, c'est curieux, mais c'est beau tous ces mots-là, nature morte, still life, vie quiete.
On a Richter en ce moment, le peintre Richter qui a une. Vous avez pas vu, il y a une exposition à Paris. Il a toute une période nature morte qui est. Bon, nous égarons.
C'est bien, c'est un bon égarement.
Bah, peut-être. Donc c'est moi qui choisis.
Moi je ne saurais pas choisir. Je n'y ai pas songé. Les écureuils fébriles grimpent par brusques accélérations sur l'écorce cornée et toujours un peu moite ou collante ou moisie. Sur le ciment qui revêt le haut du mur comme un chapeau, sur le crépi qui poudroie dans la terre à sa base. Pauvre colosse, monument de plâtre, nécropole du néant qui vous remplissez de vide au fur et à mesure que les chairs que vous protégez se défont. Ah, c'est un passage où, enfant, c'était vrai, pour pouvoir me retirer de la famille, il y avait un cimetière à côté, j'aimais bien, parce que c'était absolument protégé par le silence et les murs du petit cimetière où je pouvais aller lire. Mais non, je vais pas lire. Non, je vais dire juste une chose sur les écureuils, parce que c'est, j'en ai beaucoup et j'aime tous les animaux. Ils m'effraient un peu, les écureuils. Ils ont une telle anxiété, ils ont une telle fébrilité. Ils tremblent toujours un peu, leur cœur bat à 400 à l'heure. Ils m'émeuvent beaucoup, mais ils me font un peu peur. On peut toucher, recevoir un oiseau sur sa main, recevoir ça. Mais les écureuils, c'est vraiment c'est hâtif. Vous voyez, il y a une sorte de fièvre. Voilà.
Bon, mais on va peut-être finir sur les écureuils. Alors, je vous remercie beaucoup.
Merci, je vous rends votre.